7. La prémonition. Dîner à la potagerie. Chapitre 38. Savine boit son infusion à petites gorgées.
Merci, Nicky.
D'après ce qu'elle a compris, mélange de serpolet, de marjolaine et de reine des prés. Nectaire a mis une éternité à la lui préparer. Honnêtement, la pincée de réglisse et le soupçon d'anis étoilé, elle a du mal à les distinguer et à faire la différence avec un vulgaire sachet. Pas sûr que si elle l'avouait, Nectar apprécierait. Surtout qu'elle sent dans sa voix une pointe d'amertume, une pincée d'agacement et un soupçon de vexation. La longue tirade de Savine sur les amours compliqués entre Jonas le surfeur et Amandine sa fiancée n'a pas eu l'air de beaucoup l'intéresser. Nectar vient de tout reprendre depuis le début. Son coup de téléphone à Saint-Jean-de-Luz, la patronne du fournil de Lamia, les cannelés au miel que chaque jour Esteban Libéry achetait. Plus j'y pense, conclut Nectar, et plus je me dis qu'il y a un truc qui cloche. Esteban ne pouvait pas être à la fois apiphobe et se gaver de gâteaux au miel. Manger du miel, c'est pas une façon de se venger des abeilles ? Nectar lève les yeux au plafond de la mairie, et sans se donner la peine de répondre, compose un numéro sur le cadran du téléphone. Il retient son doigt juste avant d'appuyer sur le dernier chiffre. T'as voulu lancer Bocolon sur l'affaire ? Alors écoute et apprécie. 3 sonneries. Allô, Iban ? Nectar adresse un clin d'œil à Savine pour lui faire comprendre qu'appeler le lieutenant Lazarbal par son prénom est une stratégie subtile afin de le mettre en confiance entre collègues de la même grande maison. C'est Hervé. Tu me remets ? Lieutenant Hervé Lespinasse, de Besse. Et Nectar en fait des caisses. Tout juste s'il ne va pas demander des nouvelles des enfants, la température de l'eau sur la grande plage, la vitesse du vent et la taille des rouleaux.
Dépêche-toi, Bocolon, soupire Savine.
Va droit au but, ou il va raccrocher. Voilà. Pour en venir à ce qui justifie notre partenariat basco-vergnat, on a un meurtre sur les bras, un empoisonnement à la digitaline, Maddy Libéry est dans la liste des prescriptrices potentielles, alors il faudrait qu'on remonte, comme qui dirait, dans son passé.
Bocolon, se lamente encore Savine dans sa tête, es-tu obligé de prendre cet accent de bougnat de carnaval pour convaincre Lazarbal ?
Nectar, en plus de ses talents d'acteur, s'improvise scénariste et se lance dans l'interminable résumé de tout ce qu'il a appris sur le docteur Libéry, l'adoption de son fils, ses goûts et ses phobies, son emploi du temps le matin de sa disparition, la plage, la serviette, le sweat et les espadrilles, la pièce de 1 euro, son coup de fil au fournil de Lamia.
« Juste au cas où, Iban, s'empresse de préciser Nectar. C'est pas que je veux passer après toi pour m'assurer que le boulot a été bien fait, mais si tu veux y voir clair, mieux vaut passer 2 fois le chiffon sur les carreaux que pas du tout.
Pas vrai ?
Donc, je disais, le coup de téléphone à la serveuse, puis le patron, ouf, on n'a pas eu le petit mitron. Et enfin, la patronne du Lamia qui m'a parlé des cannelés.
Même si le lieutenant Iban Lazarbal a trouvé la tirade un peu surjouée, il n'en reste pas moins impressionné.
Je lis l'espinasse. Remontez tout ça 10 ans après.
Je te l'apprends. Lazarbal ricane à l'autre bout du téléphone.
Faut pas charrier non plus. Disons simplement que tu viens de rejoindre mon camp.
Ton camp ? Quel camp ?
Celui de ceux qui ont toujours douté de la thèse de l'accident.
Et... vous êtes nombreux ?
Maintenant, on est 2.
Le quart d'heure suivant se résume à un monologue de Lazarbal que Nectar n'interrompt que par quelques onomatopées puisées dans son folklore auvergnat personnel.
Au tout début, Hervé, quand Maddy Libéry nous a signalé la disparition de son fils, on a retenu 3 hypothèses, seulement 3. La fugue, la noyade ou l'enlèvement. On avait évidemment tous en tête la noyade. C'était l'hypothèse la plus probable. Le gosse avait simplement désobéi à sa mère, mais Tant qu'on n'avait pas retrouvé le corps, impossible de négliger les deux autres possibilités qui se réduisirent rapidement à une seule d'ailleurs, car un gamin de 10 ans qui fugue, mais qu'on ne retrouve pas, c'est soit qu'il a fait une mauvaise chute, donc retour à la case accident, soit une mauvaise rencontre. On a mis le paquet pendant 3 semaines. Affiches, flash radio en français, en basque et en espagnol, photos dans les journaux. Le plan enlèvement n'était pas encore aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Mais je crois que personne dans le pays ne pouvait ignorer qui était Esteban Liberi, ni à quoi il ressemblait. Quand, 29 jours après, on a découvert son corps flottant en bas de la corniche du Rugne, ça a été un soulagement pour une grande partie de l'équipe. Et moi aussi, je dois l'avouer. Même si soulagement, c'était peut-être pas le mot à employer.
Ouais.
Plus de mystère, plus de mystérieux kidnappeurs qui foutaient la trouille aux familles de Bordeaux jusqu'à Bilbao. C'était une noyade. Une simple noyade. Et le corps avait dérivé. Évidemment, la mère ne voulait pas l'admettre. Un accident. Ça signifiait que sa responsabilité était engagée, alors qu'elle collaborait parfaitement avec nous depuis 4 semaines. On était son seul espoir. Elle s'est mise d'un coup, disons le mot, à nous faire chier.
Oh oh.
Ouais, Hervé, c'est vraiment ce qu'on pensait tous, une casse-couille. Elle était tout bibe, elle avait du fric, elle payait des avocats pour tout reprendre, qui eux-mêmes payaient des experts pour dire tout et son contraire, par exemple... Affirmer que le corps n'avait pas pu dériver de la plage de Saint-Jean-de-Luz à la corniche du Rugne, si l'on se fiait au courant marin de ce mois-là.
Mouais.
Mouais, comme tu dis. Sauf que le corps d'Esteban avait bien été retrouvé au large de la corniche du Rugne. Ils ont analysé l'eau dans son estomac, les traces d'algues et de plancton dans ses poumons. Pour rien. Ils ont recherché des traces de lutte sur sa peau, mais... vu le nombre de jours où son corps avait trempé dans l'océan, ça rendait les conclusions particulièrement acrobatiques. N'empêche, des légistes privés, ouais, ça existe, ont tout de même cru déceler des ecchymoses sous-cutanées qui, selon eux, avaient forcément dû être causées par une très forte pression de 2 mains adultes sur ses avant-bras. Maddy Liberi était formelle. Ses traces, le matin de sa noyade, n'existaient pas.
Ah.
La plupart des collègues avaient déjà plié le dossier. De toute façon, c'était au juge de décider. Et pour lui, l'affaire était classée. Tu connais la devise, les avocats aboient et la caravane de la justice passe. Sauf que, on dit aussi, têtu comme un basque. Presque autant qu'un Auvergnat, Hervé. Et dans cette affaire, plusieurs petites choses m'avaient toujours chiffonné. Ces espadrilles qu'on n'a jamais retrouvées, par exemple. On a tout ratissé, sur terre comme sur mer. On les aurait récupérées si Esteban les avait laissées sur la plage, et même s'il était allé se baigner en les gardant aux pieds. Par contre, s'il avait rejoint quelqu'un qui les avait gardées, et j'en suis arrivé pareil que toi, au cannelé.
Et
t'imagines remettre en cause les conclusions d'une affaire aussi médiatique? Pour 2 espadrilles et une pâtisserie à 30 centimes? Tout le monde s'est foutu de ce détail. D'autant plus que, le matin du drame, Esteban n'avait pas mis les pieds à la boulangerie. Personne n'a voulu voir qu'on était face à 2 informations contradictoires. D'une part, le petit Esteban avait une peur panique des abeilles et de l'odeur du miel. Tous les témoignages concordent. Je les ai tous recueillis. Ses instituteurs, son prof de solfège, son psy. D'autre part, à moins d'imaginer que la patronne du fournil de la Mia mente, Esteban achetait chaque matin une pâtisserie au miel.
Et ?
Et donc, la seule conclusion logique que l'on pouvait en tirer était simple. Esteban n'achetait pas ses pâtisseries pour lui, mais pour quelqu'un d'autre.
Sa mère ? Lazarbal laisse filer un bref silence, surpris que son collègue s'exprime enfin par une vraie phrase, même limitée à 2 mots.
précise le flic basque. Maddy Libéry a toujours affirmé qu'elle n'était pas au courant. Pour elle, Esteban se contentait de garder la monnaie. C'était sa récompense pour son crochet par la boulangerie chaque matin. Et il versait les pièces dans une tirelire.
« Donc, Iban, » poursuit Nectar, redevenu volubile. « La théorie, c'est qu'entre le fournil de Lamia et l'appartement de sa mère, Esteban rejoignait quelqu'un chaque matin. Quelqu'un qui avait faim. »«
Exact. Te voilà rendu au même point que moi, Hervé. J'ai fait tous les SDF du coin sans résultat. Les balayeurs du petit matin, les promeneurs de chiens, je n'ai jamais déniché aucun témoin. » J'ai fini par penser que le môme était trop timide pour refuser le cadeau de la boulangère et qu'il balançait la spécialité dans la première poubelle ou la donnait à bouffer au tourne-pierre. Comme tu dis, Hervé, mais si t'as mieux à proposer, cette énigme a rendu la mère Libéry de plus en plus ma boule. L'idée que quelqu'un était derrière l'enlèvement de son gamin l'obsédait et ça la rendait malade qu'on n'ait aucune piste. En plus, on avait collé des centaines d'affiches avec la photo d'Esteban, partout sur la côte. Impossible de toutes les décrocher. Elle croisait le visage de son gosse dès qu'elle sortait. Peut-être même qu'il y en a encore 10 ans après. Elle a fini par déménager en Normandie au bout de quelques mois, pour refaire sa vie. J'espère qu'elle va mieux aujourd'hui. J'ai juste su qu'elle avait commencé un travail avec un psy. Esteban aussi était suivi par un psy. C'est en causant avec lui qu'est né mon dernier doute. Une quatrième hypothèse, la plus sordide de toutes.
Nectar peine à trouver une onomatopée adaptée.
Un suicide, Hervé.
Merde !
C'est Savine qui a crié. Elle n'a pas pu s'en empêcher. Lazarbal se braque étonné.
Y a quelqu'un avec toi ?
Non, non.
Parce que même si c'est prescrit, c'est confidentiel ce que je te dis.
Ouais, pas de souci. C'est juste, l'aspirante Laroche. Elle m'apportait du thé. Et je l'ai jeté. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein, de son thé ?
T'es bizarre, Hervé.
Pourquoi bizarre ?
Comme si tu ne me téléphonais pas d'une gendarmerie.
À cet instant précis, pour rassurer le lieutenant Lazarbal, une sirène de voiture de gendarmerie retentit dans le silence de la rue de l'Hôtel de Ville et s'arrête pile devant la mairie. Les portières de la fourgonnette bleue s'ouvrent, amplifiant encore le vacarme. Nectar aurait bien d'autres questions à poser au lieutenant basque, et tout en premier, le nom des psys d'Esteban et de Maddy Libéry, mais les gendarmes frappent déjà à la porte. Je te rappelle, collègue, une urgence. Si avec toute cette fanfare, Lazarbal n'est pas convaincu qu'il est flic... Aussitôt, tous les autres employés de la mairie, isolés dans les différents bureaux, descendent aux nouvelles. La Souche, Géraldine, Oudard... Trois gendarmes entrent sans qu'on leur ouvre la porte. Le lieutenant Lespinasse s'avance en tête, barbe en bataille, uniforme déboutonné. Il se plante directement devant Nectar. Bocolon craint le pire. Viennent-ils pour lui ? A-t-il été démasqué ? Ils n'ont tout de même pas fait charger la cavalerie pour une simple usurpation d'identité. D'ailleurs, Lespinasse n'a pas l'air en colère. Il a simplement l'air accablé. Les gardes forestiers, ceux qui surveillent la vallée de Chaudefour, ont repéré un quad près de la dent de la rancune. Lorsqu'ils se sont approchés, ils ont entendu un cri. Nectar se mord les lèvres. Savine, en un réflexe protecteur, s'est approché de lui. Un cri ? Oui, un cri, poussé par ta sœur. Aster ? Nectar est tellement surpris qu'il en renverse son mug. Le breuvage tiède explose sur le pavé en une flaque d'herbe séchée, comme si des centaines de fourmis se noyaient sous ses pieds. « Elle n'a rien, rassure-toi », s'empresse d'ajouter Lespinasse. « On n'est pas là pour elle, mais pour ce qu'elle a découvert. » Savine, Nectar et tous les employés de la mairie, ils sont bien une dizaine maintenant, en restent bouche bée. Un cadavre, à une trentaine de mètres de son quad. Tout laisse penser qu'il s'agit de Jonas le moine et qu'il a été assassiné.